Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Je salue chacun de vous et je vous invite à prendre place. Ceux qui sont en chemin, que Dieu les garde. Ceux qui n'ont pas pu venir, que Dieu les garde. Ceux qui sont ici présents, que Dieu les garde. En ce dimanche 12 mars, jour de grâce, nous sommes ici rassemblés pour le louer, pour l'adorer, pour exalter le seul nom qui nous a été donné, dans les cieux, sur la terre et sous la mer, le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Le Seigneur est avec chacun de nous, parce qu'il est Dieu créateur. Et il est avec nous tous. Tout à l'heure, quand Serge a prié, il a dit le mot « ensemble ». Nous sommes ici ensemble, unis par l'Esprit de Dieu. Unis, unité, union, communion, ensemble. Le Seigneur nous dit dans le psaume 133, bien-aimé, « Voici, oh qu'il est agréable ». Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et le troisième verset qui nous dit, car c'est là, que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen.
Amen.
Amen. Merci d'ores et déjà à Eric et à mes deux sœurs, Lovely et Anaël. Que Dieu nous conduise en toutes choses et que l'humilité rentre dans nos cœurs. Et que toute la gloire revienne à notre Dieu. Je vous invite à vous lever pour ce premier chant, Un jour dans tes parvis. Vaut mieux que mille ailleurs. Vaut mieux qu'une vie ici-bas, vaut mieux qu'une journée ici-bas. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs, la force de l'Église, nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Pas par rapport à nos faciès, pas par rapport à nos travails, pas par rapport à l'endroit où nous habitons. Nous sommes frères et sœurs par l'unité, l'Esprit de Dieu qui nous unit. Amen. Amen, alléluia. Seigneur, tu nous vois rassemblés là devant toi et ton cœur de Père se réjouit. C'est le prochain chant. Le cœur de Dieu se réjouit de voir ses enfants unis, pas seulement en apparence, mais soyons unis dans notre cœur. Parce que lui, le Seigneur, on ne peut rien lui cacher. Ils sont les cœurs et les reins. On ne peut rien lui cacher. Alors soyons unis pendant que nous chantons. Je ne vais pas vous demander de vous tenir les mains, bien que j'aimerais bien. Sentez-vous libre de tenir la main de votre conjoint, de votre sœur, de votre frère, peu importe. Soyez libre. Dieu nous voit rassemblés en ce lieu. Et nous le prendrons deux fois, bien-aimés. Éphésiens 4, versets 1 à 6. Je vous exhorte donc, c'est pas Patricia, c'est pas le pasteur. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le Seigneur nous invite à rester dans la paix les uns avec les autres. Il y a aussi, bien aimé, un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous. Amen. Nous allons entamer ce prochain chant, unis nos cœurs, parce qu'il y a un seul corps, un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Amen. Chantons bien-aimés, unis nos cœurs.
Nous venons en ton nom rassembler.
Unis nos cœurs dans ton amour. Unis nos cœurs dans ton amour. Et avant de passer à un moment de louange, nous allons chanter ce chant, chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour, n'est-ce pas? Que nous soyons à Tombouctou, que nous soyons aux États-Unis, que nous soyons au Groenland, nous avons des frères et sœurs au Groenland. Nous avons des frères et sœurs aussi dans le sud, dans des endroits, des contrées difficiles, dans des endroits plus faciles. Mais par l'Esprit de Dieu, nous sommes unis par une chaîne d'amour. Celui qui invoque le nom de Jésus-Christ avec sincérité de cœur, pas pour faire semblant, pas pour que les autres le regardent au coin de la rue. Celui qui rentre dans sa chambre, dans le secret de son cœur. Celui qui est présent debout ici aujourd'hui, dans le secret de son cœur. Que Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Dès à présent, ici-bas, apprenons à le louer. Parce que quand nous serons dans les cieux, on aura de cesse. Hein, Mike? On aura de cesse de le louer. Alors ouvrons nos bouches ici-bas. Parce qu'il va nous demander. Hein. Il va nous demander quand nous serons individuellement devant lui. Parce qu'il sait tout de nous. Nous sommes unis.
Nous sommes unis.
Tu nous vois rassembler en ce matin en ton nom. Tu nous vois rassembler ce matin en ton nom. Nous sommes unis par cette chaîne d'amour en ton nom. Si nous pouvons nous tenir les mains, regarder à notre frère, à notre sœur, c'est parce que tu nous lies à toujours par une chaîne d'amour, ton amour. Oh papa, comment ne pas fléchir le genou en ce matin? Comment ne pas te dire merci pour cet amour qui nous lie? Oh Dieu, si tu n'étais pas venu, où serions-nous? mais parce que tu nous as aimés, tous individuellement, et toute cette terre, toute cette humanité. Aujourd'hui, nous pouvons dire gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu, parce qu'il nous lie par une chaîne d'amour, par son Esprit Saint. Ô Père, que ton peuple te loue en ce matin. Que ton peuple ouvre sa bouche pour te dire merci. Fais grâce, papa. Fais grâce parce que tu nous aimes. Et en retour, tous ensemble, et moi individuellement, je veux te dire que je t'aime. Parce que tu m'as sauvé. Tu m'as guéri. Tu m'as libéré. Tu m'as délivré des puissances du mal. Et tu m'as fait passer à l'autre bord. Parce que tu m'aimes. Et ce que tu as fait pour moi, Patricia, tu l'as fait pour chacune de mes sœurs, chacun de mes frères, tous ceux qui t'invoquent sur cette terre avec sincérité de cœur. Père, unis-nous. Unis-nous maintenant dans la louange et dans l'adoration. Au nom de Jésus. Amen. Issus du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qu'il nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour entonner ce chant. Une seule Église. Nous sommes tous issus du même Créateur.
Issus du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qu'il nous attire à lui.
Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon.
Nous n'avons qu'un seul Père.
Nous n'avons qu'un seul Père. Nous n'avons qu'un Sauveur qui pour nous s'est offert. Quand nous étions indignes et pécheurs, nous n'avons qu'un seul Roi. Nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église.
Un jour se lève pour ceux qui se revêtent de l'Esprit, et nous n'aurons qu'un seul rêve, que cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ.
Louons Dieu pour nos différences, abandonnons les médisances, que le feu du diable soit mis en lumière, que le Père fasse tomber les barrières. Cet offert, quand nous étions indignes et pécheurs, nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église.
Les élus de tous les temps, avec les anges et nous ici présents, passeront l'éternité ensemble. Alléluia. À l'adorer. Alors dès maintenant, vivons dans l'unité.
On verra que nous sommes ses disciples, à l'amour qui nous unira. Nous avons un seul but, élever Jésus, et que son salut soit répandu.
Nous n'avons qu'un seul Père.
Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur qui pour nous sert. s'est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule église.
Nous n'avons qu'un seul Père.
Nous n'avons qu'un seul Père. Nous n'avons qu'un Sauveur qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi. Nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule église.
Nous sommes qu'une seule église. Les murs de Créteil, ce n'est pas l'église. L'église dans notre cœur. L'église partout dans le monde. Où le Créateur a posé ses yeux. Il a envoyé Jésus-Christ entrer dans des vies. Amen. Seigneur, pardonne-moi et pardonne-nous. Je n'ai aucune prétention de dire « Je suis venu à toi ». Ce matin, que celui ou celle qui peut dire ça se mette debout et se frappe l'estomac, la poitrine. Ayons l'humilité, bien-aimée, en ayant entendu ce chant. Ayons l'humilité de reconnaître que nous n'avons rien fait. C'est Christ. Christ, dans le jardin de Gethsémané, effectivement, qui a dit « Oui, Père, ta volonté et non la mienne. » Pour que Mike, son épouse, et Ben, Dylan, mon époux et moi, chacun des frères, chacune des sœurs, le pasteur Serge, que nous ayons cette possibilité, cet entendement de dire « Oui, Jésus, je te reçois dans mon cœur. » Et de ce jour où il est rentré dans notre vie, dans notre cœur, établir son royaume, nous sommes devenus une seule église. Des bien-aimés avant nous ont commencé. Ils ont peut-être chanté ce chant. D'autres bien-aimés vont continuer. Ils vont peut-être chanter ce chant. Nous sommes unis parce que notre Créateur a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Nous allons laisser la place à notre frère pour la parole que Dieu a mise sur son cœur. Je vous invite à vous asseoir. Je ne sais pas si Serge, tu veux être... Oh, Serge est déjà là. Tu vois, hein? Unis dans l'esprit, Serge. T'as vu ça? Merci Seigneur à tout un chacun. Soyez bénis.
Oui, je vais t'inviter à venir, Mike. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous fait. Et justement, pour corroborer le propos que Patricia disait à la fin de cette première partie, nous sommes une seule église. Et ce matin, nous manifestons ce fait en accueillant notre frère, Mike James, qui fait partie d'une autre communauté, mais qui fait partie de notre communauté. Car il est enfant de Dieu, il est serviteur de Dieu, il est ancien dans une de nos églises de l'AEI, et ce matin nous manifestons que nous sommes une seule église. Je vais t'inviter Mike à venir, je vais peut-être aussi inviter Elisabeth dans un premier temps à venir aussi, et après elle pourra se rasseoir, comme ça on fera une présentation du couple. On oublie souvent les épouses, les serviteurs, quand on les invite. On va faire l'effort de ne pas oublier Elisabeth aujourd'hui. Mike, Nous, on l'appelle Mike, mais son prénom, c'est Michael. Voilà. James, Michael et Elisabeth sont des, vraiment des personnes qui ont rencontré le Seigneur il y a fort, fort longtemps et qui servent Dieu ensemble depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. Et au niveau de notre union d'église, ils ont été dans plusieurs communautés et actuellement, ils sont dans l'implantation de l'église de Versailles avec le pasteur Patrice Collongeon. Ça fait maintenant quelques années que cette implantation a bien pris. Mais ils ont été là au début de cette implantation. Ils ont été investis dans ce que nous on appelle la région ouest, donc Yvelines, dans les églises des Yvelines, au niveau d'Élancourt, Plaisir, Montigny, dans toutes ces églises. Et Mike, depuis bien longtemps, est le trésorier national de notre union d'église. Il a eu ce ministère à cœur qui est lié un peu à sa formation. Il en dira quelques mots peut-être. Mais il nous a bénis dans cette assemblée de l'AEI avec tout ce qu'il a pu mettre en place comme financement, comme réflexion pour justement soutenir l'œuvre de Dieu et pour soutenir les serviteurs de Dieu. Dieu seul sait combien d'églises en difficulté. Dieu a utilisé Mike pour aider à restaurer, à relever. Combien de familles aussi ont été au bénéfice de son accompagnement personnel. En tout cas, on est reconnaissant aujourd'hui de le recevoir ici pour qu'il nous donne ce que Dieu a mis sur son cœur, comme l'a dit Patricia, dans ce premier temps de culte. Et comme vous l'avez aussi lu sur le WhatsApp, on aura un autre temps après le culte qui sera plus de partage, de questions. Moi, je vous encourage vraiment à rester attentif, mais aussi à prendre l'engagement de rester après. Mike, vous avez combien d'enfants et où sont-ils aujourd'hui?
Nous avons quatre enfants, ma femme et moi, quatre enfants.
Recording in progress.
On va chanter. qui ont un certain âge, et qui ont aussi des enfants, etc. Quatre enfants. L'aîné habite à Strasbourg. On est venu en France parce que vous entendrez quand même un tout petit accent.
Voilà, c'est ça. Tu as un accent. Tu viens d'où exactement?
Ma femme vient d'Angleterre. Et moi, je viens d'un petit pays à côté qui s'appelle le Pays de Galles. Donc, nous sommes des Britanniques, mais je ne suis pas anglais. Pour la précision. Donc il faut se crocher bien quand même parce que malgré le fait que nous sommes en France depuis et encore un tout petit accent perdu, je suis navré pour ça. notre fils aîné qui habite à Strasbourg et notre fille, deuxième enfant, habite près de Fontainebleau, donc il est le plus proche de chez nous. Peter s'est marié avec une Française, marié avec une Française. Le troisième enfant s'est marié avec une femme tchèque, de la République tchèque, et ils habitent en Belgique. Là. Et le quatrième enfant, je pense, ce matin, habite, il s'est marié avec une Américaine, habite aux États-Unis, là, en Caroline du Sud, sur la côte est des États-Unis. Donc le Seigneur nous donne des enfants pour un moment, pour une période, et après ils vont ailleurs. Ils sont bons. Tout à fait. Tout à fait. Tout
merci,
à fait.
Elisabeth. Ouais. On va laisser
Mike. Bon. Alors, si je mets mes jouets en place pour que je puisse marcher. Peut-être ça marche. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ok, ça marche. Afin que ça marche, c'est tout, c'est important. Quelques mots sur mon arrière-plan. Je suis en France, comme j'ai dit, depuis plus de temps que pas mal de vous. Même si vous êtes né en France. Je suis vraiment... Ah. Arrivé en 74, vous voyez, quand même. Et j'ai travaillé chez Bull, une boîte informatique, et j'ai travaillé dans les finances. J'ai travaillé donc avec l'AI, comme disait Serge, et je travaille toujours comme trésorier de cela. J'ai travaillé aux États-Unis en finance. Et j'ai travaillé dans un différent endroit. Et le Seigneur a mis sur mon cœur de parler des finances. De parler des finances, pas les grandes finances, on n'est pas parti pour ça. Mais c'est comment gérer nos finances. Comment gérer nos finances personnelles. Comment s'y prendre là. Comment s'y prendre. Donc je ne parle pas des personnes qui ont des millions, donc je ne suis pas là. Je parle des personnes comme nous, qui travaillent avec les finances, qu'il faut qu'ils fassent attention. Merci de m'avoir invité, ça c'est sympa. Merci à Serge et merci au conseil. Je suis ravi d'être ici et de partager ce moment avec vous. Donc, mon message aujourd'hui, qui va durer un certain temps, je pense, a deux éléments, deux parties. Une réflexion sur l'argent tiré d'une rencontre de Jésus avec un jeune homme. C'est là où on va commencer dans un instant. Et quelques idées pratiques, maintenant dans le message, un tout petit peu plus tard dans le message, pour la gestion de nos finances personnelles. Alors, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas évidentes, vous pouvez m'interrompre. Je prends volontiers pour ça. Donc, il sera suivi cet après-midi par deux séminaires, comme disait Serge tout à l'heure. Ensuite, il aura un deuxième message. Les pauvres. Il aura un deuxième message le 14 mai, qui sera également suivi de deux séminaires. Par ailleurs, pour votre information, le deuxième message terminera dans une manière tout à fait inhabituelle. Je ne vous dirai pas plus, mais je vous invite à venir voir. Quelques pensées comme guise d'introduction. Nous passons beaucoup de temps pour gagner de l'argent. Combien va-t-on toucher? Alors, je parlais avec un jeune homme, ou vous, dont le nom m'échappe déjà, navré, qui est dans le mode, et donc il a des années devant lui, d'autres personnes, comme moi-même, peut-être, ont peut-être moins d'années, mais si on pense à travailler pour 40 ans, ou encore plus, je ne sais pas ce que ça va aller avec la retraite d'aujourd'hui, et on touche, je ne sais pas quoi, si peut-être en famille, on a 2 000 euros en famille, par couple, 25 000 par an, on touche un million. On risque de toucher au moins un million dans nos vies. Si vous allez toucher un million, qu'est-ce que vous ferez avec? Ça vaut la peine de prendre quelques minutes pour tout simplement pour y penser, y réfléchir. Et c'est là un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous signale, mais peut-être vous avez déjà compris ça, qu'il y a deux économies en concurrence dans le monde d'aujourd'hui. Vous connaissez l'économie du monde, l'argent des rois. Ils décident tout. Mais dans l'économie de Dieu, Dieu est roi. Ce que nous avons chanté ce matin, Dieu est roi. C'est lui qui décide de tout. Nous connaissons un ami, Georges, on va l'appeler Georges, qui est un missionnaire en Italie. Alors, dans le temps, ça date depuis le siècle dernier. Et il était invité de parler à une conférence en Allemagne. Comme professeur qui parle à différentes conférences, il était invité de parler à cette conférence en Allemagne. Et au fur et à mesure que la date s'approchait d'aller en Allemagne, il se disait, peut-être il va falloir que je renonce à ça. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent pour y aller. En plus, à ce moment-là, comme savent faire les Italiens et les Français aussi, par ailleurs, il y avait une grève. Il y avait une grève postale, grève de la poste. Donc, pas de courrier du tout. Comment s'y prendre? Un beau jour, sa femme est descendue dans l'escalier de l'appartement où ils habitaient là, dans le logement, et dans la boîte à lettres, où on n'avait rien vu depuis un moment, elle avait une lettre. Une lettre avec une fenêtre. Vous savez comment ça se fait, avec les enveloppes, avec des fenêtres comme ça. Le nom est écrit sur le côté, et à travers la fenêtre, on voyait ce qui semble être des billets. Donc, elle a ramené tout ça chez le foyer. Il y avait 2000 Deutschmark dans cette enveloppe-là, environ 700 euros. Là. Comme je dis, ça date depuis des siècles derniers avant l'euro. Là. Et merci Seigneur, dit Georges et sa femme. Et avec cet argent, ils ont pu aller donner la conférence en Allemagne. Quelque temps plus tard, ils ont rencontré quelqu'un aux États-Unis et il avait trouvé que cette personne aux États-Unis avait été le donateur de cet argent. Cette personne qui voyageait beaucoup dans le monde international avait du billet qui lui restait à la fin d'un voyage en Allemagne. Il s'avait mis sous une enveloppe et elle avait mis Georges, son nom de famille, la ville, et laissé là. Sa femme, ayant vu ça, a mis ça dans le porte-lettre pour le courrier. Monsieur Georges X et la ville en Italie. Et c'est arrivé. C'est arrivé comme ça. Donc, on y reviendra sur les deux économies plus tard, mais je voudrais insister, je voudrais développer, vous y amener à réfléchir sur l'économie de Dieu. Une question sur laquelle je ne vous demande pas de lever les mains. Êtes-vous inquiète par votre situation financière? Ne dites pas. Si vous voulez m'en parler par la suite, tête à tête, sous cassure, je veux bien vous écouter. Mais pas dans le groupe comme ça. Okay. Répondez bien à vous-même. Pour beaucoup de réponses, la situation est très claire. Êtes-vous inquiète? Ouais. Donc, pas de souci pour ça. Le but de ces séminaires, aujourd'hui et dans 2 mois, n'est pas de vous accuser, ni de vous culpabiliser, mais de vous apporter quelques conseils pour que vous puissiez avoir de la paix et la sérénité dans la vie en général et avec la finance tout particulière. Si vous êtes marié, vous vous rendez compte peut-être que l'argent est une première source de tension dans un couple. Et la tension mène vers où? Vers les divorces. Alors, je mets en dessous, comme vous voyez bien, le divorce n'est pas une solution économique. Qu'est-ce qui se passe avec un divorce? Aussitôt, il faut trouver un deuxième logement. Bon, nous allons parler de l'argent aujourd'hui, ça me touche à cœur. Puis-je me permettre de... acheter des choses, puis réduction de dette, préparation pour l'avenir. On ne va pas tout faire aujourd'hui parce que le programme est long et de données aussi. Jésus faisait souvent, vous parlez de l'argent souvent, on y reviendra tout à l'heure. Nous allons essayer d'appréhender l'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire avec et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec afin que nous puissions avancer dans la gestion de notre argent. L'argent, comme le temps, n'est pas élastique. Vous vous êtes rendu compte de ça, je pense. Là. Il a des limites. Le temps a des limites. On ne peut pas tout faire, surtout avec un arrivant à un certain âge, on ne peut pas tout faire. Mais même en jeune, on ne peut pas tout faire. Et avec l'argent, la même chose est vraie. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Là. On ne peut pas dépenser de manière inconsidérée sans se rendre compte un jour qu'il n'en a plus. Ou pire, que nous devons des montants considérables aux banques ou à d'autres personnes. Je vous rappelle que nous sommes des intendants de ce que Dieu nous a confié, y compris l'argent. Nous sommes des intendants comme ça. Dieu est un Dieu d'ordre, vous le savez bien, et nous sommes appelés de garder nos vies en ordre, y compris dans les finances. Pour nous commencer nos réflexions, je vais demander à quelqu'un dans la salle à lire ce passage. On va lire 2 passages qui s'enchaînent. C'est la rencontre de Jésus avec un jeune homme. Et j'aimerais que quelqu'un lise cette première partie de la rencontre, Marc 10, versets 17 à 22, si vous pouvez lire à haute voix. Et les autres, c'est une personne qui va lire, évidemment, mais les autres, je vous demande d'écouter bien parce qu'il aura une interrogation orale à la fin. Si quelqu'un veut bien nous lire Marc 10, verset 17 à 21. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, la question, c'est tout simplement, la première question, c'est combien de commandements sont cités? Combien de commandements sont cités là? Si vous écoutiez, combien de commandements, sinon, si vous regardez ça, combien?
Six.
Six. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, prochaine question, combien de commandements ne sont pas cités? Oui, très bien. Le compte est bon, 6 et 4, ça fait 10. Ok, les 6 qui sont cités concernent quoi? Très grosso modo, très résumé. La relation avec? Société, l'autrui autour de soi. Okay? Et les quatre qui ne sont pas cités concernent quoi?
Dieu.
Dieu, la relation avec Dieu. Oui. Intéressant. Intéressant. Alors vous voyez, je suis toujours touché par ça parce que les six commandements qui sont cités, il dit j'ai tout observé depuis ma jeunesse et je me dis, ouh, chapeau. Et Jésus ne le contredit pas. Il ne dit pas que vous mentez ou autre chose comme ça. Mais par contre, Jésus a mis le doigt sur quelque chose. Il a mis le doigt sur son argent et la relation avec les autres commandements. Donc quelque part, il a une relation, entre l'argent et notre relation, un lien de relation avec l'argent et Dieu, notre relation avec Dieu. En Exode 20, verset 2, donc début du commandement, je suis ton Dieu et pas l'argent. Donc, pas l'argent. Dans ce monde dans lequel nous vivons, l'argent a une très grande emprise. Vous le savez bien. Et il faut bien réfléchir là-dessus, qui est notre Dieu. Alors, quelqu'un d'autre maintenant peut lire la deuxième partie de ce même passage, qui est la suite de cette histoire, versets 23 à 27. Une autre personne peut lire ça, s'il vous plaît. Impossible, impossible.
Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est
Merci beaucoup. Pourquoi les disciples étaient étonnés? Tellement étonnés. Parce que Jésus a l'air de dire qu'il était difficile pour ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et il a l'exemple de ce bon homme, ce jeune homme qui est venu et qui n'a pas suivi. Là. Pourquoi les étaient étonnés? Voici quelques idées répandues de temps des disciples et peut-être de notre temps aussi. Une première idée, les riches peuvent tout faire, tout qu'ils veulent, parce qu'ils ont de l'argent. Ils peuvent payer des pots de vin pour se doyer quiconque, même Dieu. Les riches étaient approuvés par Dieu déjà, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi étaient-ils riches? Les riches peuvent acheter leur entrée dans le royaume de Dieu par les offrandes de chaque semaine, chaque mois, ce que vous et moi ne pouvons pas faire du tout. Est-ce que ces idées font tilt dans votre esprit-là? Sans le dire exprès, Jésus montre que les richesses ne nous avancent pas dans le royaume de Dieu. Pas du tout. Et finalement, verset 27, « Nul ne peut sauver sa vie, c'est seulement Dieu qui nous sauve. » Autrement dit, comme j'ai lu dans la feuille de bonne semence tout récemment, l'un des plus grands obstacles pour accepter le salut gratuit en Jésus-Christ, c'est justement le trait des richesses qui nous fascine. Je veux dire, donc, chaque personne, quelle que soit sa situation, voudrait toujours un peu plus d'argent. Vous savez bien, donc je nie pas ça. Et quand vous avez un peu plus, vous voulez un peu plus. Et quand vous avez un peu plus, vous voulez un peu plus. Je vous donne une citation la prochaine fois, pas aujourd'hui, la prochaine fois, dont l'auteur va vous étonner. Pose pour un moment pour revoir notre attitude envers l'argent. Est-il important pour nous? Ça, c'est une question un peu bête. Le montant est-il important pour vous? Comme je l'ai déjà dit, le monde dans lequel nous vivons nous passe les messages suivants. C'est bon de dépenser et d'acheter. Et c'est bon de gagner plus pour qu'on puisse dépenser plus et acheter encore plus pour ça. Qu'en pensez-vous? Dans le monde dans lequel nous vivons, la richesse et l'argent sont supposés être capables de répondre à tous les besoins des gens. Cependant, la Bible dit que la recherche de toujours plus d'argent, que la Bible appelle l'avarice, la cupidité, équivaut à l'idolâtrie. Comme nous avons vu dans notre lecture, l'argent peut nous séparer de Dieu. Dans sa première lettre à Timothée, Paul dit le suivant, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être donnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, parce qu'il parle de Timothée, mais pour toi, femme de Dieu aussi, fuis ces choses. Fuis ces choses. Le danger de l'amour de l'argent est le risque de s'éloigner de Dieu. En Psaume 62, verset 11, nous lisons, quand les richesses se croissent, n'y attardez pas votre cœur. En Osée 13, verset 6, ils sont rassasiés dans le pâturage, ils se sont rassasiés et le cœur s'est enflé. C'est pourquoi ils m'ont oublié. Deutéronome 8, 17, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Ces versets sont clairs, tout vient de Dieu, pas de nous-mêmes. Alors, jadis, dans le siècle dernier, encore avant de venir en France, je travaillais en Angleterre. Mon premier job, comme on parlait ce matin, mon premier job là, et un beau jour, vendredi après-midi, le chef m'appelle dans son bureau. Il me dit, j'ai quelque chose à vous dire. Et je dis, oui, chef. Il dit, bonne nouvelle à vous dire. Oui, chef. Je veux vous donner une augmentation. Ah, et c'était une jolie augmentation. J'étais jeune, beau, etc. Donc, mais ça, je n'ai été conscient. Alors, tout le week-end, c'est le vendredi après-midi, avec ça, j'ai serré sa main, évidemment, on fait ça de temps en autre en Angleterre, pas souvent, mais de temps en autre. Et j'ai dit, merci chef, bon week-end. Et je suis parti avec mes amis chrétiens, et je suis allé à Londres, j'habitais à Londres à cette époque-là, et je suis allé me promener au centre de Londres avec, avec mes amis. Et tout le week-end, je me suis dit, oh, tu as bien fait, Mike. Tu as bien fait, tu as bien travaillé pour avoir cette belle augmentation. Oh, combien j'étais fier de moi-même, tout ce week-end-là. Lundi matin, j'arrive au bureau, et le chef m'invite dans son bureau. J'ai quelque chose à te dire, Mike. Il avait fait, il m'a annoncé qu'il avait fait une erreur. Et je ne toucherai pas à tout ça. Et c'est comme si j'ai eu un message de Dieu sur le champ, comme ça. Dieu me disait, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Et je dis, merci Seigneur. Et je dis, merci chef aussi, parce qu'il était chrétien et il avait un bon rapport. Par la suite, j'ai eu l'augmentation, mais un peu plus tard, mais l'histoire est restée avec moi depuis. Dans la parabole du semeur, en Matthieu 13, Jésus parle de différentes personnes qui ont bien reçu la parole. Certains porteront beaucoup de fruits, tandis que d'autres qui ont également bien reçu la parole de Dieu dans leur vie auront une toute autre finalité, parce que les soucis de ce monde, la séduction des richesses et les autres convoitises étoufferont la parole, la rendant infructueuse. L'avarice lutte contre la parole, et la parole et lutte contre la foi aussi. Martin Luther disait, l'avarice est la conséquence d'un manque de foi. Et le manque de foi est une conséquence d'avarice. L'avarice est une conséquence d'un manque de foi, et un manque de foi est la conséquence d'avarice. Quelle donc devrait être notre attitude envers l'argent? Comment servir Dieu? Servir Dieu veut dire que nous reconnaissons que c'est Dieu qui pourvoit nos besoins et pas simplement nous-mêmes, même pour ceux qui sont payés pour le travail. J'étais toujours payé régulièrement pour mon travail, et c'est quelque chose dont je me suis dit dès le très jeune âge, que mon argent que j'ai touché à la fin du mois venait du Seigneur. Ça venait à travers la boîte où je travaillais, tout à fait, mais ça venait du Seigneur, et ça m'était important. Nous vivons dans notre foi et dans la confiance en Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Alors, comment s'y prendre? Nous ne pouvons pas vivre dans le monde sans l'argent. Ou encore, pensons-nous, nous ne pouvons pas vivre dans ce monde sans plus d'argent. Je dis ça, je reviendrai la prochaine fois. Alors, cette première partie de message, je voulais terminer ça avec la pensée suivante. Vous vous rendez compte que de toutes les idoles dans le temps de Jésus, il y avait une qu'il adressait avec plus de sévérité que les autres. Et ça, c'était Mammon. Il adressait Mammon beaucoup plus, l'idole de l'argent. Il est beaucoup plus sévère contre cela. Pour terminer cette première partie, je vais tout simplement prier. Père, que tu nous protèges de Mammon dans nos propres vies, pour chaque personne ici présente. En le nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons passer sur une partie un peu plus pratique. Là. Et la partie concerne la gestion de nos finances personnelles. Là. D'abord, les sujets que je vais traiter dans les séminaires. Cet après-midi, je vais parler de deux sujets, et je vais les aborder déjà dans un instant. Je commence déjà dans un instant. Ce que la Bible dit sur l'argent, le rôle d'un budget et comment le construire. La prochaine fois, dans le séminaire, la prochaine fois, en mai, comment suivre un budget, comment suivre son argent. Bonne idée. Les dettes, comment les rembourser. L'épargne, comment donner et aussi comment ne pas donner. Ok, donc ça c'est là. Alors, la Bible, on parlait, je reviens là, ce que dit la Bible, dit cela à Jean. Est-ce que la Bible dit beaucoup ou pas beaucoup? Est-ce qu'il y a beaucoup de versets dans la Bible ou quelques-uns? Vous avez bien compris la lecture de ce jeune homme ce matin, jeune homme riche, quelques versets là. Combien de versets dans la Bible parlent de l'argent? Allez! Environ, je ne sais pas où sont, pas où sont ils prêts. 20? 50? Centaine? Et encore? Bon, je peux vous aider. 200? Non, ce n'est pas ça. Et encore? Je m'attendais beaucoup, oui. Ça ne peut pas. Oui. 1500. 1500. Plus. Plus que 500. Excusez-moi. Plus que 500. Ça, c'est clair, oui. Plus que 500. Allez. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est plus que 500 et encore plus. Je ne veux pas rester là. 1000, j'ai entendu 1000, c'est comme les enchères. J'ai entendu 1000. Oui, plus que 1000. Combien? Ça, tu sautes un peu trop loin, trop vite. Bien essayé. Il y a plus que 2000 versets à ce sujet. 2300, 2500, selon le comptage là. C'est plus que 2000 versets dans la Bible qui parlent de l'argent d'une manière ou d'autre. C'est le thème le plus important dans la Bible après celui de la rédemption. C'est un thème drôlement important là. Dans le séminaire cet après-midi, on va voir des versets. Pas forcément tout. Mais on va voir quelques versets. La Bible parle beaucoup de l'argent plus que sur l'enfer ou la pureté sexuelle ou toute autre chose. C'est de l'actualité aussi bien dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Les deux testaments parlent très sérieusement de ça. Et Jésus, est-ce qu'il parlait de l'argent? Pourquoi les collecteurs d'impôts aimaient écouter Jésus? Pourquoi les collecteurs d'impôts? De quoi parlent les collecteurs d'impôts? Ça n'a pas changé depuis le temps. Parce qu'il parle, Jésus parlait de l'argent. Pourquoi les pharisiens n'aimait pas écouter Jésus parce qu'il parlait de l'argent. Et il mettait en pratique ce qu'il enseignait. Comme vous le savez bien, c'était peu rare avec des pharisiens. Pour ça. Si nous sommes dans une situation inconfortable avec la gestion de nos finances personnelles, il pourrait être nécessaire de reprendre au début. Peut-être il sera nécessaire aussi de modifier certaines habitudes, ce que j'appelle désapprendre, afin de améliorer la qualité de notre gestion et par la suite de améliorer la qualité de nos vies. C'est pour cela que je commence avec ce que Dieu dit dans la Bible. Le premier séminaire cet après-midi, c'est ça. Pour ça. Comment structurer l'utilisation de notre argent? Est-ce qu'on sait ce qu'on fait avec notre argent? Je vous taquine parce que la plupart des personnes, non. Est-ce qu'on sait ce qu'on fait avec son argent? Est-ce qu'on sait ce qu'on voudrait faire avec son argent? Et je ne parle pas de partir sur un grand voyage. Je ne parle pas de des choses comme ça. Est-ce qu'on sait ce qu'on voudrait faire avec son argent? Ok, je vais parler de ça cet après-midi. Ça s'appelle un budget. Là? Et nous allons parler d'un budget. Comment construire un budget? pour nous-mêmes, pour nous amener à réfléchir sur notre propre gestion d'argent. Qu'est-ce qu'on veut faire avec notre argent? Qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, c'est le budget, c'est un point de départ pour ça. Pour nous aider à ne pas écouter les messages séducteurs autour de nous. Les cartes de crédit. Les cartes de crédit. Dans une église, je parlais de plaisir tout à l'heure, je nommerai l'église, je nommerai pas la personne, mais dans l'église, quand je parlais, comme je parlais aujourd'hui à cette église-là, un homme d'un certain âge est venu me voir à la fin et il me dit, j'ai 9 cartes de crédit. Pourquoi? Je lui demandais. Parce que chaque fois, je reçois une invitation dans ma boîte aux lettres signée pour cette carte de crédit. Vous avez été présélectionné pour tout ça. J'ai parlé avec lui un tout petit peu. Ce n'est pas forcément mon idée d'avoir 9 cartes de crédit. Et par la suite, quand je l'ai revu, quelques mois plus tard, il avait sérieusement réduit la carte de crédit. C'est très simple, vous savez. Vous prenez un paire de ciseaux et va pop, top, top. Et c'est très efficace. J'ai fait ça avec un ami qui avait des soucis d'argent. Il a des années maintenant. On était à McDo, là, et ils ont rencontré à McDo pour un café et parler ensemble. Et je savais qu'il avait des problèmes là. Et un jour, il est rentré avec ses cartes. Ils vont trouver des ciseaux et ensemble, il a coupé ça devant moi et tous les deux, nous pleurions. De joie qu'il a pu faire ça. Alors, il y a 2-3 jours, nous avons reçu chez nous une carte que je pense avoir avec moi, mais je ne sais pas où il est maintenant. De Truffaut, le magasin de Truffaut. Vous connaissez le magasin de Truffaut? Grand magasin pour le jardin, etc. Pour ça. C'était, oui. C'est une jolie carte. Jolie. Bien fait, bien imprimé, etc. Et le but de cette carte, c'est de nous offrir, c'est-à-dire madame, pas moi, mais de nous offrir, le privilège de 10%, de réduction de 10% sur l'article de notre choix. 10% sur l'article de notre choix. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On cherche actuellement une trouelle. Est-ce qu'on va acheter une trouelle pour 5 euros et faire 50 centimes de réduction là-dessus? Est-ce qu'on va aller acheter un grand arbre, je ne sais pas quoi, des fleurs, un grand arbre, parce que, hein, et avoir plus de réduction avec plus de dépenses? Est-ce qu'on va aller, parce que quand on va à Truffaut, on n'achète pas une fleur, on achète un bac de fleurs, des bacs de fleurs, pour enjoliver la maison, mais ce qui est bien là. 10% sur un article, mais ça c'est bien pour le magasin. Parce qu'ils vont toucher pas mal. Donc, on y va pas, je vous le signale tout simplement pour que vous sachiez. Pourquoi un budget? Pour nous apprendre le contrôle de notre argent. Vous lisez bien là. Cet après-midi, je vais donner des suggestions au sujet du budget pour les couples. Pour une personne seule, pour des familles, pour tout le monde, avec des remarques pour chaque cas de figure. On parlera de l'éducation des enfants, selon leur âge, dans le contexte de l'argent, pas tout le reste. Pour les jeunes, je vais essayer même de vous aider à vous voir plus clair concernant une personne que vous fréquentez. Tout le but d'argent, évidemment. On peut faire un budget à l'année ou au mois. On peut faire un budget pour 12 mois, comme ça, je vous en parlerai davantage cet après-midi, ce n'est pas mon propos ce matin. Hein. Ou on peut faire un budget pour le mois qui arrive. Et je veux vous parler de ça maintenant, le budget pour le mois qui arrive. Quel mois arrive maintenant? Avril. OK. Pour le budget mensuel, je veux vous parler. Donc vous voyez une calculette là, les calculettes sont fort utiles. Dépenser sur papier tout l'argent avant le début du mois. Bon, sur papier, ça ne gâche rien du tout. Vous prenez un bout de papier, comme ça, je vous montre un exemple dans un instant. Vous mettez sur quoi vous voulez dépenser votre argent, et le, combien vous voulez dépenser, vous faites un total et voir si ça va entrer. Si ça ne va pas entrer, il faut couper quelque chose. À vous de choisir. Donc, je ne vise rien de tout. Je ne vise rien de tout quand je dis ça. Vous pouvez dépenser votre argent comme bon vous semble. Dans des limites. Dans les limites de ce que vous avez. Pour mettre un contrôle très fin de l'argent, parce que vous parlez à 10 euros près ou comme ça, peut s'avérer obligatoire si peu de recettes. S'il y a peu de recettes qui rentrent ou si les recettes sont irrégulières, ceci est très utile. Ça prend du temps. Vous avez compris, ça peut prendre du temps. OK, donc ça je comprends. Là. Et voilà un exemple d'un budget mensuel. Pour le mois de, je n'ai pas mis avril, mais vous pouvez bien voir. J'ai commencé, c'est la tête, c'est pas tout, c'est le budget, vous comprenez bien. J'ai mis la partie salaire parce que les recettes sont souvent le plus vite fait et le plus facile à faire. J'ai, et c'est tout. Budgeter, dépenser en cas de recettes reçues, évidemment. Alors, après, j'ai mis quelques idées pour dépenses. Je n'ai pas beaucoup de place, vous voyez bien, donc je ne peux pas faire tout un spreadsheet. Chez nous, quand on fait cet exercice, on utilise une feuille Excel parce que ça permet de calculer plus facilement et plus clairement. Et on remplit toute une feuille d'Excel. Là, c'est une page, on prime page A4, remplie. Je n'ai pas de place pour faire ça. Donc, je mets l'offrande, les dettes éventuelles, et après, je mets quatre sujets très importants. Le logement, la nourriture, les vêtements et le transport. Et vous donnez un total. Alors, pour ces sujets-là, c'est les quatre sujets importants pour chaque personne. Il faut bien qu'on puisse se loger, avoir nourriture, vêtements et transport. Mais il faut dire aussi qu'on soit clair. On peut avoir un logement comme ça. On peut avoir un logement comme ça. C'est pas la même chose. On peut avoir une voiture comme ça, ou une voiture comme ça. Donc, et on peut manger la même chose. Alors, j'ai mis quelques points de suspension parce que vous aurez plus fortement d'autres choses là, plus de choses à ajouter. Et les lignes sont trop succinctes, peut-être vous mettrez plusieurs lignes. Mais voilà, un début d'un budget mensuel. Il ne reste que remplir les chiffres. Et je vous invite à faire ça avant le soir du 31 mars. Le mois d'avril. Je vous demanderai en mai si vous l'avez fait. Je verrai bien. OK. Après vous avez établi un budget comme ça, je vous encourage vivement à le suivre. J'ai mis là budgeter, dépenser ou reçu pour les recettes évidemment, mais dépenser ici, ce que vous budgetez, je budgete. Je ne sais pas quoi. 600 euros pour le logement, je ne sais pas. Quel chiffre vous mettez là. Et dépenser, 600 c'est bon, 500 c'est mieux, 800 c'est un problème. OK, vous comprenez bien ce que ça veut dire. Mais suivre ça. Si on ne suit pas son argent, on risque de sombrer en dette et d'en avoir de plus en plus. Les dettes, je change de sujet maintenant, les dettes sont un fléau dans notre société, un vrai fléau. Dans le réveil du Pays de Galles, au début du XXe siècle, un tout petit peu avant que je n'étais né, le remboursement des dettes était un signe très clair de réveil, du réveil. C'était un des signes très clairs du réveil. Des personnes qui n'avaient auparavant aucune intention de rembourser les dettes ont tout remboursé après la vie avait été changée par Jésus. La gestion du remboursement des dettes est importante. Autre chose qui était marquant à ce moment-là, que c'est le pauvre policier et gendarme de l'époque, n'avait rien à faire. Je n'avais rien à faire. Parce que le moraux, les éthiques, la vie avait tellement changé que les personnes suivaient les règles, suivaient le Seigneur. Et c'est une marque de réveil. Je prie que ça puisse nous arriver aussi. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Alors, je vais parler beaucoup plus des dettes la prochaine fois, mais c'est tout simplement effleuré le sujet aujourd'hui. J'ai deux diapos. Règles pour les dettes. Je vous donne mes règles pour les dettes. OK? Par ailleurs, je vais passer les diapos à Serge et vous pouvez les garder pour circuler parmi ceux qui les veulent. première règle, rembourser les dettes. Ok, c'est pas compliqué. Hein? C'est peut-être plus compliqué à faire. Ça, nous verrons la prochaine fois. Payer le minimum, ou payer au moins le minimum à chaque échéance pour éviter des frais supplémentaires. Surtout avec des prêts à peu d'intérêt, à bon marché. Quand vous ratez une échéance, les frais montent rapidement. Rembourser les dettes. OK, vous avez compris ça? Rembourser les dettes. S'assurer que la période de remboursement, quand vous achetez quelque chose, est comparable à la vie de l'objet acheté. Ce n'est pas la peine de prendre une dette de 5 ans pour quelque chose qui va s'user en 2 ans. C'est bête, c'est évident. Je l'ai dit. Et enfin, la dernière règle, au cas où vous n'avez pas compris, rembourser la dette. La prochaine fois, on verra comment les rembourser au plus vite. OK? Je ne vais pas dire ça, je ne vais pas faire ça, c'est tout un enchaînement là. Et je vais créer un programme pour rembourser les dettes au plus vite. Le programme pourrait prendre 6 mois, 6 ans, voire plus, ça dépend où vous en êtes. Si vous en avez, donc je vise personne quand je dis ça. Et donc, ce n'est pas du tout une culpabilisation, mais mon propos est de vous aider d'avancer. Ne plus avoir des dettes nous donne une liberté dans nos finances. On peut utiliser l'argent comme l'on veut. Le résultat des dettes remboursées est étonnant, dans ce bon sens. 3 conséquences de la réduction de dettes. Réduction de tension dans le foyer, amélioration de la situation financière et flexibilité pour l'avenir. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre argent, dans les limites évidemment. Alors, mes consignes pour vous, commencez aujourd'hui. Je vais revenir, j'aime le bonhomme là. Ce qui arrive quand vous remboursez les dettes, donc comme je dis, le résultat est du tonneau, vous voyez bien. J'y reviendrai, encore une fois, j'insiste, ce n'est pas du tout pour vous culpabiliser, si vous savez dire, si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas. Merci Seigneur. Merci de vous aider à vous avancer. Je parle de deux autres sujets, le temps avance, je ne suis pas loin de la fin, pas trop loin. J'entends les deux autres sujets brièvement, quand on va parler la prochaine fois. L'épargne. L'épargne n'est pas évident. Quand on a des dettes, quand on a une vie compliquée, quand on a une vie remplie, quand on a une famille, quand on a un foyer, épargne, qu'est-ce que ça? Alors, je vous encourage de commencer une épargne de précaution. Une épargne de précaution où vous mettez peut-être 20 euros. Si vous avez de l'âge, vous mettez 50, 100 euros, là, pour aller plus loin, pour faire face aux aléas de la vie. Qu'est-ce qui se passe avec une voiture normalement constituée? Elle tombe en panne. C'est le propre des voitures. C'est le propre des voitures. Là. La prochaine fois, donc, je vous invite à commencer une épargne comme ça. Je vous dirai la prochaine fois quand on peut l'utiliser et quand on ne peut pas l'utiliser. Et quand la gestion de votre argent est sous contrôle, vous êtes libre à donner. Et je cite un verset là. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. À ce sujet, le GBU, quelqu'un, personne dans le GBU ici? Le GBU, que je connais depuis un moment, a écrit une très jolie brochure avec le titre Le privilège de donner. Le privilège de donner. Un titre qui interpelle. Ok. En guise de conclusion maintenant. Jésus dit sur l'argent. L'argent est le premier indicateur spirituel dans nos vies. Celui qui est fidèle en peu de choses est fidèle en ce qui est plus important. C'est aussi la première menace sur nos vies. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous savez bien que vous ne pouvez pas le prendre avec toi. au moment venu, quand le Seigneur nous rappelle. Je vais vous montrer la prochaine fois comment on peut l'envoyer d'avance. La manière par laquelle nous regardons l'argent est un bon test de notre cheminement avec le Seigneur. Il a besoin d'un acte définitif de transférer nos possessions à Dieu et de reconnaître que nous n'en sommes que gestionnaires. Là. Les problèmes financiers sont souvent des symptômes d'autres problèmes spirituels que seulement Dieu peut guérir. Billy Graham, vous ne le connaissez pas, c'est un grand évangéliste donc américain qui est mort depuis un certain temps maintenant. Et toute notre famille, sauf moi, est venue au Seigneur à travers de ses prédications. Donc nous sommes très reconnaissants pour son travail. Billy Graham disait, si une personne a une bonne manière de penser envers l'argent, ça lui aidera de mettre en ordre presque tous les autres domaines de sa vie. Je vous dirai ça. Si une personne a une bonne manière de penser envers l'argent, ça lui aidera de mettre en ordre presque tous les autres domaines de sa vie. Trois versets clés. Là. Je suis ton Dieu. On a parlé de ça tout à l'heure. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Donnez plutôt que de recevoir. On revient surtout sur le dernier verset la prochaine fois. Alors, je ne vais pas vous laisser partir comme ça, le temps est terminé. Mais je ne vais pas vous laisser aller comme ça. J'ai quand même quelques suggestions d'exercices pratiques à vous proposer. Vous ne t'attendez pas à ça, non? Quelques suggestions d'exercices pratiques à faire chez vous avant la prochaine fois. Je vais les lister. Comme je dis, les diapos seront disponibles chez Serge. Là. Vous faites ce que vous pouvez. Sauf peut-être le premier, et ça, je propose que tout le monde le fasse. Chez soi, priez pour la gestion de l'argent. Priez pour la gestion de son argent. Si vous êtes célibataire, priez tout seul, ou priez avec un ami, une amie, en qui vous avez confiance. Si vous êtes marié, priez avec le conjoint, et peut-être avec les enfants aînés qui comprennent. Priez pour la gestion de l'argent. Donnez régulièrement. Il y a beaucoup de bénédictions que le Seigneur nous offre si on donne régulièrement. Commencez, comme je parlais à l'instant, d'une épargne de précaution, je dis 20 euros, ça dépend de ce que vous pouvez mettre là-dedans. Si vous mettez 50, ça c'est bien, parce que quand le watch tombe en panne, ça coûte plus que 20 euros. Mais donc c'est bien d'aller un peu plus loin pour ça. Créer et suivre un budget du mois d'avril. Ça, c'est le mois de mon show que j'ai mis sur le slide tout à l'heure. Prenez les slides à travers de Serge et son ami là, pour voir comment s'y prendre avec ça et poursuivre le remboursement des dettes. En revenant de ces choses-là, pas mal de ces choses la prochaine fois, c'est tout ça, vous voulez lancer. Je ne voulais pas laisser vous partir comme ça, ne pas savoir quoi faire. Parce que c'est un sujet tellement, tellement, tellement pratique. Père, merci pour ce moment qu'on a pu passer ensemble. Je prie pour mes frères, mes sœurs ici. Nous sommes unis par l'amour de Christ. Nous sommes unis dans Christ, comme on a chanté tout à l'heure. Et je voudrais prier pour chacun que tu puisses te nouer les liens avec maman, là où ça serait approprié de nouer tel lien. Père. Et je prie pour la sagesse. Je prie que tu donnes de la sagesse à chaque personne ici présente pour savoir comment utiliser l'argent que tu nous as confié. Que nos vies puissent t'honorer et te glorifier. En le nom de Jésus. Amen.
Recording stopped.
Merci.